Bonjour. Tout à l'heure, quand on m'a dit est-ce que je vous avais passé de bonnes vacances, je ne me souvenais plus qu'il y avait eu des vacances. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis le mois de juin, je pense, mais ça m'était passé par la tête du fait que je suis rentré de vacances plus tôt cette année. Donc ça fait déjà presque un mois et demi que je suis rentré. Et vous savez, les vacances, très vite, ça devient du passé. Parce que dès qu'on prend le travail, on oublie. Cet après-midi, j'ai pensé commencer une étude. Donc, comme vous voyez le titre est assez long. Les miracles de Jésus dans l'évangile de Jean. Et nous allons traiter cet après-midi le premier des sept miracles que Jésus accomplit, ou plutôt que l'apôtre Jean a rapporté dans son évangile. Il y aurait plusieurs choses à dire tout d'abord à propos de l'évangile de Jean. Vous savez que la Bible contient quatre évangiles, quatre récits, on pourrait dire quatre témoignages sur la vie publique de Jésus, pas seulement sa vie publique, mais aussi sa naissance, son enfance, sa jeunesse. Mais ces choses-là, à part la naissance, qui était une naissance particulière, miraculeuse, l'enfance et la jeunesse de Jésus sont très résumées en quelques versets, un ou deux chapitres maximum. Mais le reste des évangiles est consacré à la vie publique de Jésus. Chaque évangile est différent. Cependant, ils parlent tous de la vie de Jésus, de son ministère public. Ils contiennent un certain nombre de points communs. Certains s'étonnent parfois que les évangiles soient différents, voyant peut-être là une certaine forme de divergence de vue, pour ne pas dire de contradiction. Mais vous savez, il suffit de penser, pour expliquer cette différence, de penser à, par exemple, au fait que si nous sommes plusieurs parmi nous, peut-être quatre, si on prenait quatre personnes parmi nous, qui ont assisté au même événement. Vous savez, il suffirait, ça m'est arrivé une fois, quand j'étais pasteur dans le 17e arrondissement à Paris, quelquefois, je me permettais d'interroger les gens, par exemple lors de notre réunion de prière du mardi soir, je les interrogeais des fois sur ce que j'avais prêché le dimanche d'avant, 2 jours avant. Et une fois j'ai fait cela, et j'ai été très étonné d'entendre ce que soi-disant j'avais prêché le dimanche d'avant. Un des membres de l'Église m'a dit, vous avez prêché sur David. Alors j'ai réfléchi un moment. Je dis, je n'ai pas prêché sur David. Et tout d'un coup, la pensée m'est venue, j'ai mentionné un court épisode de la vie de David en 2 minutes. Mais pour cette personne, c'était la chose marquante du message, alors que ce n'était pas le point principal. Un autre m'a dit, je crois que vous avez prêché sur l'épître aux Éphésiens. Mais je n'avais pas prêché sur l'épître aux Éphésiens. J'avais cité un texte de l'épître aux Éphésiens. Et ainsi de suite. Alors ce jour-là, je me suis dit, peut-être que c'est ma manière de prêcher qui est en cause. Peut-être que les gens, en m'écoutant, ne retiennent pas grand-chose. Je me souvenais que quand j'étais en école de formation, en école biblique, j'avais eu un professeur extraordinaire qui enseignait d'une manière tellement facile, tellement agréable, tellement logique, que lorsqu'on devait passer l'examen, peut-être à la fin du mois, j'avais simplement besoin de relire une fois mes notes et je me rappelais tout ce qu'il avait dit. Parce que c'était clair, c'était logique. Alors je crois qu'on a toujours à apprendre. Toujours est-il que dans l'évangile de Jean, il y a 7 miracles dont certains sont mentionnés dans les autres évangiles et certains, Jean, pour certains, Jean, l'évangéliste, le disciple de Jésus, l'apôtre, est le seul à les mentionner. En particulier, le miracle dont nous allons parler cet après-midi. Avant de passer à cette histoire assez extraordinaire, on ne connaît pas d'autres occasions où, en réponse à la prière, Dieu aurait changé de l'eau en vin. Bon, je vais revenir sur ce détail important, bien sûr, de notre histoire. Ce n'est pas le seul fait que l'eau a été changée en vin ce jour-là, peut-être pour la seule fois de l'histoire. Ce n'est pas ce point-là précisément qui est à retenir, parce que pour certains, ça pose aussi problème. On va y revenir dans un instant. Mais j'aimerais d'abord dire que les sept miracles dont nous allons parler au cours de cette année scolaire, donc dimanche prochain, on parlera du deuxième et puis on verra les mois d'après, la suite, ces sept miracles qui sont rapportés dans l'évangile de Jean ont une signification particulière. Dans les autres évangiles, dans les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il y a beaucoup plus de que sept miracles qui sont racontés. Mais il faut rappeler que l'évangéliste Jean a vraisemblablement, tout le monde est d'accord là-dessus, écrit son évangile beaucoup plus tard que les autres. On pense, les historiens qui se sont penchés sur la question et ont pu trouver des indices dans les évangiles même, disent que Matthieu, Marc et Luc ont sans doute écrit leurs évangiles 10, 15 ou 20 ans après les événements, mais que l'apôtre Jean a certainement écrit son évangile beaucoup plus tard, peut-être 50, voire même 60 ans après les événements. Alors je crois qu'il est important, que ce détail est important. Pourquoi ? Parce que lorsque... Bon, vous n'avez pas tous 50 ans, encore moins 60, 70, 80 ou 90, à mon avis, je suis même peut-être le plus âgé dans la salle et je n'ai pas encore 60 ans. Mais vous imaginez quelqu'un qui devrait raconter des événements qui sont arrivés 50 ou 60 ans en arrière. Déjà, on pourrait penser, au fil des années, si l'apôtre Jean, comme beaucoup le pensent, avait entre 80 et 100 ans lorsqu'il a écrit son évangile, peut-être qu'il avait des problèmes de mémoire. C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas parlé de tous les miracles dont les autres parlent. Je ne pense pas, car le contenu de son évangile est très précis. Il apporte même dans les histoires communes aux autres évangiles des détails intéressants. Je crois plutôt que, avec 50 ans de recul, quand on raconte des événements, d'abord on raconte des événements qui nous ont profondément marqués. C'est déjà pour cela qu'on ne les a pas oubliés. Et nul doute que les sept miracles que nous verrons, donc dans les six autres, nous les verrons dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, que chacun de ces miracles a marqué profondément l'évangéliste Jean. Chacun de ces miracles a une signification particulière. Quelqu'un a fait remarquer que chaque miracle signifiait que Jésus était maître de quelque chose en particulier. Par exemple, dans le miracle de changement de l'eau en vin, que nous allons voir tout de suite, Jésus montre qu'il est le maître de la qualité, parce qu'il prend de l'eau, et de cette eau, il va faire quelque chose d'une qualité meilleure. Enfin bon, certains diront l'eau c'est meilleur que le vin. D'autres, peut-être les Français diront non, le vin c'est quand même meilleur que l'eau. Bon, à condition de ne pas en abuser. Mais c'est quelque chose de plus particulier, le vin. Dans le miracle suivant, où Jésus guérit le fils d'un officier royal, alors qu'il n'est pas à côté de l'enfant malade, Jésus montre qu'il est le maître de la distance, qu'il peut agir à distance. Et ainsi de suite, le troisième miracle, je ne les citerai pas tous, mais le troisième miracle, où nous voyons Jésus guérir un homme qui était infirme, paralysé, depuis 38 ans, nous voyons que Jésus est aussi maître du temps. Quelquefois, nous doutons un petit peu que Dieu, que Jésus puisse faire quelque chose pour nous. On voit des gens, je vois souvent des gens dans mon ministère qui doutent, qui n'ont pas assez de foi. Et parfois, c'est simplement parce que cela fait très longtemps qu'ils attendent. Parfois, très longtemps qu'ils prient et que rien ne s'est passé. Alors, avec le temps, ils se découragent. Jésus, ici, a montré, nous le verrons dans quelques semaines, qu'il est aussi le maître du temps. Et ainsi de suite. Alors, le texte nous dit que Jésus, au tout début de son ministère, était descendu à Jérusalem, au chapitre 1 et 2, puis il est remonté dans sa région d'origine, Cana, qui se trouve au nord du pays, dans la province de Galilée, se trouvait à quelques kilomètres seulement de Nazareth, où Jésus avait grandi, où il avait été élevé par ses parents. C'est là que, nous est-il dit dans le texte, que nous avons lu il y a un instant, il y a eu un mariage. Je crois que cette histoire est assez extraordinaire pour différentes raisons. D'abord, c'est la seule fois que nous voyons Jésus invité à un mariage. D'après le récit, on a l'impression que c'est Marie d'abord, qui avait été, sa mère, qui avait été invitée, et que comme Jésus était revenu dans la région, après avoir passé un certain temps à Jérusalem, où son ministère avait commencé, Marie a été invitée, et elle a probablement dit aux mariés, « Vous savez, il y a mon fils, Jésus, qui est là, avec quelques amis, ce n'était pas prévu, alors on a dû lui dire, « Amène-les aussi !» Hein, en France, on ne fait pas comme ça. En France, quand au tout dernier moment, il y a des invités en plus, ou il y a des personnes en plus qui se manifestent, on dit « Ah, ben, on ne peut plus, maintenant c'est très compliqué, vous savez, les mariages. Hein. Il faut prévoir à l'avance, il faut réserver une salle, il faut contacter le cuisinier, le traiteur qui va préparer les repas. Et X jours avant le mariage, il faut que tous ceux qui ont été invités disent si oui ou non ils vont venir, pour qu'on puisse commander les repas. » Et quelques jours avant, parce qu'on a l'impression que Jésus est arrivé quelques jours avant, qu'il a été invité au dernier moment, quelques jours avant, chez nous en France, ça ne se fait pas. C'est très délicat de dire, voilà, il y a 4, 5, on pense généralement qu'il y avait 4 disciples avec Jésus, les 4 qui sont, dont il est parlé au chapitre 1er, et on s'est dit, s'il y a 5 personnes en plus dans un mariage au tout dernier moment, c'est un problème. Une, ça va, mais 5, ça fait beaucoup. Toujours est-il que Jésus et ces 4 disciples, probablement 4 disciples, ont été invités. Alors, pendant le repas, il faut savoir une chose, c'est que chez les Juifs, à l'époque en tout cas, les festivités de mariage duraient jusqu'à une semaine. Aujourd'hui, c'est difficile à faire chez nous, en tout cas. Un mariage qui durerait une semaine coûterait une fortune. Déjà qu'un mariage coûte cher. Mais un mariage d'une semaine avec, en gardant tous les invités, il faudrait qu'ils prennent tous une semaine de vacances. Mais c'était la coutume à l'époque. Certains ont pensé que cela expliquait qu'au bout de 5, 6, 7 jours peut-être, il n'y avait plus de vin. Alors, j'aimerais apporter un détail concernant le fait que Jésus a transformé l'eau en vin. Tout d'abord, il faut préciser une chose, c'est que Jésus, par ce miracle, n'a bien sûr pas voulu encourager l'alcoolisme. Parce que la quantité, vous avez lu avec moi, la quantité d'eau que Jésus a transformée en vin, puisqu'il a dit de remplir toutes les jarres, tous les vases d'eau. Or, d'après les connaisseurs de l'époque, de l'histoire de l'époque, ils ne sont pas tous d'accord, mais selon les uns, chaque jarre contenait au moins 40 litres. Donc 40 litres d'eau transformée en vin, 40 litres de vin multiplié par 6 jarres, ça fait 240 litres de vin. Bon, vous me direz, s'il y a 500 invités, c'est pas énorme. Et certains disent, ce n'était pas 40 litres, mais c'était sans doute beaucoup plus que cela. Peut-être 100, voire 110 litres. Donc multiplié par 6, ça fait au moins 600 litres. Alors, comment Jésus a-t-il pu changer cette eau en vin ? Jésus, je viens de le dire, n'était certainement pas en faveur de l'ébriété. D'ailleurs, rien dans ce texte ne dit que les gens étaient ivres quand Jésus a transformé l'eau en vin. Je précise aussi qu'à l'époque, chez les Juifs, nous disent des sources rabbiniques, chez les Juifs, le vin n'était pas consommé comme aujourd'hui en France, par exemple, ou peut-être au Vietnam. Je ne sais pas si on boit du vin au Vietnam. Non. Bon, alors, on va parler de la France. Donc, à l'époque, chez les Juifs, on mélangeait un quart de vin avec 3/4 d'eau, ce qui déjà atténue beaucoup la chose. C'était du vin, mais on y rajoutait beaucoup d'eau. On ne buvait pas pur comme cela. Et puis ensuite, la Bible, même si j'ai vu dans les psaumes, dans le psaume 104, qu'il est dit que le vin réjouit le cœur de l'homme et c'est Dieu qui l'a créé. Cependant, nous lisons aussi que dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, que Paul a dit « Ne vous enivrez pas avec le vin, car cela peut conduire à la débauche. » Il y a donc un équilibre. Vous savez, quand dans la Bible, il y a un texte qui nous paraît surprenant, il est toujours bon de le comparer à d'autres textes qui parlent du même thème. Nous voyons également qu'un jour, les deux fils du frère de Moïse, Aaron, qui était sacrificateur, prêtre, ont commis une grave faute, ils ont perdu la vie à cause de ces graves fautes, et Dieu a fait remarquer que c'était parce qu'ils avaient bu de l'alcool, sans doute beaucoup trop, avant leur service, qu'ils avaient commis cette faute. Parce que la Bible aussi dit que lorsqu'on boit trop d'alcool, vous me direz, la vie d'aujourd'hui le montre aussi, lorsqu'on boit trop d'alcool, on peut commettre de graves erreurs. Des erreurs même plus que graves et parfois mortelles. Qu'est-ce que cette histoire peut bien nous enseigner ? À un certain moment, donc, le marié, puisque le mariage avait toujours lieu à l'époque chez le marié partait de chez lui en procession, allait jusqu'à la maison de sa fiancée, puisqu'il n'est pas encore marié, et puis ensuite il l'amenait avec lui en cortège jusque chez lui, et c'est là qu'avait lieu le repas. À un certain moment, on est venu dire au marié, il y a un problème, il n'y a plus de vin. En France, il est évident que si en plein milieu du repas il n'y a plus de vin, les invités français ne vont pas être contents. Je n'ai jamais vécu cela, pourtant j'ai assisté à de nombreux mariages, j'en ai même fait, des mariages bien sûr religieux, mais je n'ai jamais connu cette situation. Par contre, j'ai connu un mariage qui me touchait de près, puisque c'était celui de l'un de nos enfants, où au moment du fromage, vous connaissez les Français, au moment du fromage, il n'y avait plus de pain. Et vous savez, pour des Français, ne plus avoir de vin, c'est un problème, mais ne plus avoir de pain avec le fromage, c'est un problème aussi. Je ne sais pas lequel est le plus grave, mais on aime bien n'avoir ni l'un ni l'autre. Toujours est-il que ce jour-là, c'est le vin qui est venu à manquer, et le vin qui était symbole de fête, de réjouissance, sans exagération bien sûr, représentait beaucoup. Et pour l'époux, pour le marié, c'était comme une honte de ne plus être en mesure d'offrir du vin aux invités. Alors je suppose qu'il y a eu un peu de, permettez-moi l'expression, de remue-ménage. Et puis finalement, Marie, est-ce que c'était quelqu'un de sa famille qui se mariait ? Marie a pris cela à cœur et elle est venue voir Jésus. Et lui a dit, Jésus, il y a un problème. Il n'y a plus de vin. Il est plus que logique de penser que le mariage, les célébrations n'étaient pas encore terminées. On était peut-être simplement qu'au cinquième ou sixième jour. Il y avait peut-être encore un ou deux jours à manger, pour manger. Mais un ou deux jours sans vin, c'était une marque de honte pour l'invité. Et vous savez, dans ces cultures-là, on était très attachés à ces choses, à ces symboles. Il fallait qu'il ne manque rien. Alors, quand Marie vient vers Jésus, vous avez remarqué que Jésus dit une phrase qui est assez curieuse. Je lis ici, Jésus répond à Marie, « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ?» Et dans le texte qui était affiché tout à l'heure, c'est une autre traduction, je ne sais pas si on peut la voir, un petit peu avant. Voilà, c'est ça, verset 4. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» C'est une expression un peu curieuse. On se demande ce que Jésus a voulu dire par là. C'est une expression qui revient dans d'autres textes, notamment dans l'évangile de Marc, où Jésus rencontre des hommes possédés par le démon, et ces hommes possédés par le démon disent à Jésus, « Qu'y a-t-il entre toi et nous ?» Ce qui laisse entendre que les démons ne voulaient pas voir Jésus parce qu'ils le dérangeaient, parce qu'ils pouvaient bien sûr les chasser. Et on peut penser que quand Jésus dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Jésus veut dire à sa mère, « Tu sais, maman, il ne faut pas que tu me déranges. » Un peu plus loin, il dit, « Mon heure n'est pas arrivée. Je n'ai pas encore commencé mon ministère, je n'ai pas encore fait de miracle. » Et il est vrai que jusque-là, dans l'évangile de Jean, aucun miracle n'est raconté, puisque à la fin de cette histoire, il est dit, « Ce fut le premier miracle de Jésus. » Jésus ne veut pas que sa mère lui dise ce qu'il doit faire, parce que maintenant, tout en respectant sa mère, Jésus sait qu'il dépend de son Père céleste, de Dieu. Mais sa mère sait que Jésus est un fils un peu particulier. Elle le sait depuis longtemps. Elle le sait depuis bien avant sa naissance même. quand l'ange Gabriel était venu lui annoncer qu'elle allait mettre au monde un enfant d'une manière tout à fait miraculeuse, un enfant qui serait quelqu'un d'extraordinaire. Alors Marie insiste et dit aux serviteurs, aux serveurs, « Faites ce que mon fils vous dira. » Alors, ils viennent vers Jésus et Jésus accepte de faire quelque chose. Vous savez, c'est une des leçons de cette histoire. Chaque fois que nous invitons Jésus, Jésus vient. Chaque fois que nous proposons à Jésus d'intervenir dans notre vie, de prendre en main quelque part de notre vie ou notre vie tout entière, Jésus intervient. Que fait Jésus là ? Il se contente de donner un simple ordre. Il dit aux serviteurs, aux serveurs, vous voyez ces grandes cruches là, ces grands vases, remplissez-les d'eau. Peut-être certains se sont dit, mais il n'a rien compris. Notre problème, ce n'est pas de l'eau. De l'eau, nous en avons en abondance. La preuve, c'est qu'on peut remplir ces vases. Notre problème, c'est du vin. Vous imaginez, à quelqu'un qui vous dit, quand vous dites à quelqu'un, on n'a plus de vin, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, buvez de l'eau. Il ne faut pas dire cela aux gens hein, qui aiment le vin. Vous allez boire de l'eau maintenant. Surtout dans un mariage où il y a déjà une bonne ambiance. Jésus a dit simplement ceci, remplissez d'eau ces vases. Il est dit, ils les remplirent tellement qu'ils les remplirent à ras-bord. Et Jésus a dit ensuite, deuxième ordre, prenez de l'eau et portez-en à l'organisateur du repas. Et pendant que ces hommes obéissaient, c'est là la grande leçon de cette histoire, pendant que ces hommes obéissaient à Jésus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Peut-être pour la seule fois de l'histoire, des hommes ont pris de l'eau dans un vase, dans un petit récipient, l'ont porté à l'organisateur, on pourrait dire le traiteur, au traiteur, aujourd'hui on dirait, du repas. Et quand ils n'ont rien remarqué, peut-être qu'ils l'ont porté dans un récipient qui était dans lequel on ne voyait pas trop, ils ont porté l'eau, et pendant qu'ils portaient l'eau, c'est certainement pendant qu'ils portaient l'eau, que lorsqu'ils l'ont amené à l'organisateur du repas, cet homme qui ne savait rien s'est peut-être dit, mais vous avez trouvé du vin, c'est super, on va pouvoir continuer. Mais ces gens-là savaient que ce n'était pas du vin, c'était de l'eau. Jésus avait accompli un miracle pour une raison très précise. Vous savez pourquoi Jésus a accompli ce miracle ? Parce que des gens lui ont obéi. Des gens lui ont fait confiance. Des gens ont compté sur lui pour qu'il intervienne dans leur vie. Et c'est là la raison fondamentale du miracle que Jésus a accompli. On voit cela dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible. Chaque fois qu'un homme, qu'une femme obéit à Dieu, il se passe quelque chose dans sa vie. Nous le verrons la semaine prochaine lorsque l'officier royal vient voir Jésus, c'est au chapitre 4, nous le verrons en détail la semaine prochaine. À un certain moment, cet homme dit à Jésus, « Mon fils est gravement malade, viens chez moi. » Et chez moi, c'était à 40 kilomètres, à Capernaum. Mais Jésus dit, « Je ne vais pas aller chez toi, tu peux retourner tranquille, ton fils est vivant, ton fils est guéri, ton fils ne mourra pas. » Or, que fait cet homme ? Il part en obéissance à la parole de Jésus. Et parce qu'il obéit, parce qu'il croit, puisque son obéissance manifeste sa foi, parce qu'il croit en Jésus, il va et il trouve son enfant guéri. Et ainsi de suite, bien d'autres fois, nous le verrons dans pratiquement tous les miracles de l'évangile de Jean, que nous traiterons dimanche après dimanche, nous verrons que chaque fois que Jésus donne un ordre, il y a une guérison, il y a un miracle, parce que des hommes ou des femmes ont obéi à sa parole. C'est la grande leçon de cette histoire. L'obéissance à Jésus entraîne une action de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile, par exemple, que lorsque Jésus est revenu dans sa ville, non pas natale, mais dans la ville où il avait grandi, à Nazareth, il est dit que ce jour-là, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parmi la foule, des gens qui étaient avec lui dans l'église, dans la synagogue, parce qu'il ne voulait pas croire en lui. Il ne voulait pas se confier en lui. Alors Jésus n'a rien pu faire. Lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, Dieu ne peut rien faire dans notre vie. Je termine en disant que la grande leçon de cette histoire, elle est au verset 11, le tout dernier verset. Tel fut le premier des signes que Jésus... Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que lisons-nous à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 30 et 31. Jean nous dit pourquoi il a écrit son évangile. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Ici, Jean nous explique pourquoi il n'a pas raconté tous les miracles que Jésus a accomplis. Mais il en a sélectionné sept, uniquement sept, parce que chacun d'entre eux, comme nous le verrons dans la suite des temps, a une signification profonde. Je tiens à faire remarquer que dans l'évangile de Jean, dans son évangile, utilise un mot particulier pour désigner les miracles que Jésus fait, miracles de guérison, miracles d'intervention sur la nature, miracles de libération de la mort, comme dans l'histoire de Lazare, au chapitre 11. Jean utilise le mot « signe ». Pour lui, un miracle, c'est d'abord un signe. Qu'est-ce qu'un signe ? C'est quelque chose qui parle d'autre chose. C'est quelque chose qui est là pour, avec un sens particulier. On a, par exemple, sur la route, des signaux. Des signaux qui indiquent quelque chose. Si, par exemple, vous voyez un signal tout rond, entouré de rouge, sur lequel il est écrit « stop », personne n'a besoin de vous dire qu'il faut s'arrêter, vous savez que ce signal signifie que vous devez vous arrêter. Si vous voyez un signal... triangulaire, je crois celui-là, avec deux traits qui se croisent, une croix, vous savez que ça veut dire que vous allez arriver à un croisement et que la priorité est à droite. C'est comme cela. Un signal, un signe, c'est quelque chose qui parle, qui transmet un message. Et chacun des miracles que Jésus accomplit et qui sont racontés dans l'évangile de Jean est porteur d'un message. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le changement de l'eau en vin, miracle exceptionnel, miracle peut-être unique dans l'histoire, ce miracle-là signifie que Jésus est le maître de la qualité. Il est celui qui peut donner à notre vie de la qualité. Alors, quand vous rentrez chez vous, n'essayez pas ce soir, si vous voulez boire du vin, de prier pour que l'eau se transforme en vin. Je pense très sincèrement que Dieu ne le fera pas. Parce qu'un miracle, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Vous vous souvenez du roi Hérode qui, lorsque Jésus a été arrêté, a reçu Jésus, on lui avait envoyé Jésus pour qu'il le voie. Et la Bible dit, Hérode était tout content de voir Jésus arriver parce qu'il espérait qu'il allait lui faire un miracle. Il pensait que comme Jésus allait venir, il allait pouvoir lui dire « Jésus, tu sais ce qui me ferait plaisir, puisque tu es là, c'est que tu fasses un miracle là, devant moi. » Et vous savez que Jésus n'a fait aucun miracle ce jour-là. Parce qu'Hérode voulait juste voir un miracle comme on veut voir un spectacle. Il voulait juste voir le caractère exceptionnel, extraordinaire, spectaculaire du miracle. Jésus n'a jamais accompli le moindre miracle dans ce but. Chaque miracle a une valeur. Ici donc, je répète, ce miracle nous montre que Jésus a entre ses mains le secret de la qualité. Pas seulement de la qualité matérielle, mais de la qualité tout court, puisque Jésus a dit « Je suis venu afin que ceux qui croient en moi » toujours cette expression importante dans la Bible, ceux qui croient en moi, Jean a écrit son évangile pour que nous croyions en lui. Et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie en son nom, par son nom. Jésus a dit, je suis venu pour que ceux qui croient en moi aient la vie, découvrent la vraie vie. Et cette vraie vie, Jésus dit, la vie en abondance. la vraie vie que Dieu veut nous donner, parce que c'est lui qui détient la clé de la qualité de notre existence. C'est Dieu qui nous a créés, dit la Bible, et Dieu nous a créés avec un plan précis pour notre vie. Jésus est venu pour nous montrer que Dieu veut non seulement que nous découvrions la vraie vie en lui et par lui et en croyant en lui, mais également une vie qui soit une vie de qualité, une vie abondante. Alors que Dieu nous aide à croire toujours davantage en lui et à nous attendre à lui pour vivre cette vie de qualité. Que son nom soit béni.